J'aimerais commencer ce matin en posant une question. Avez-vous un verset préféré dans la Bible? Ou avez-vous un passage préféré? Plus d'une fois, on m'a posé la question, et je peux vous dire que je trouve pas la question très juste, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement de versets, il y a tellement de passages. On peut dire, la Bible, elle est tellement belle, elle est tellement merveilleuse, que choisir un verset, un passage, c'est pas juste de demander ça. Et de temps en temps, par contre, il est vrai, il y a des passages qui nous touchent plus que d'autres. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe est d'une richesse extraordinaire. Et surtout, on cible quelques passages, Ésaïe 6, bien sûr, cette vision d'Ésaïe, Ésaïe 53, qui nous parle de l'annonce de ce serviteur Jésus-Christ qui allait être méprisé et mis à mort même. Et puis on arrive dans le Nouveau Testament à l'épître aux Hébreux. C'est peut-être une épître qu'on néglige un peu, on ne l'étudie pas autant que qu'on devrait peut-être, mais une épître extraordinaire où l'auteur met en avant Jésus-Christ et montre comment il est supérieur à tout et comment sa victoire et la victoire de tous ces hommes et femmes de l'histoire doivent nous servir d'exemple et nous aider à persévérer. Et puis, il y a des passages comme l'épître aux Colossiens. Et je vous invite à prendre ce passage, parce que l'épître aux Colossiens, avec l'épître aux Hébreux, si on devait vraiment me demander, Robert, quel est ton verset ou quel est ton passage préféré, oui, l'épître aux Hébreux, l'épître aux Colossiens aussi, parce que ici il y a une richesse extraordinaire, non pas que le reste des passages sont dépourvus de richesse, entendons-nous bien. Toute la Bible, elle est riche au-delà même de nos attentes, de notre compréhension. Mais il y a des passages et des versets qui ressortent plus que d'autres, et parfois à des moments différents. On passe par une épreuve, on passe par une situation, et puis un verset nous touche plus que peut-être d'autres, ou nous touche d'une manière différente qu'il nous a touché dans le passé. Et ici, Paul, à partir de sa prison, donc souvenons-nous du contexte, Paul n'est pas à la plage quelque part, sous les cocotiers, en train de avoir sa boisson, et tout va bien, aucun souci, non, il est en prison. Donc, dernier endroit où on pourrait penser que quelque chose de, dans un sens de bien pourrait ressortir. Nous savons que ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent en prison. Souvenons-nous à Philippe, de manière injuste avec Silas, ils sont jetés en prison pour avoir fait le bien. Et ici, l'épître aux Colossiens, probablement à Rome, Paul était emprisonné. Et là, il écrit à cette église qu'il n'avait pas encore vue. Justement, au chapitre 2. Et c'est ce chapitre, le début de ce chapitre qui va nous intéresser. Colossiens chapitre 2 et les quelques premiers versets, suivez avec moi. Au verset 1, nous lisons « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Et à travers cela, nous comprenons que à la fois ceux de Colosse, ceux de Laodicée, ainsi que bien d'autres qui avaient entendu parler de Paul, ne l'avaient jamais rencontré face à face. Ce n'était pas comme aujourd'hui où nous avons toutes les moyens techniques à la fois pour voyager, pour se voir, pour téléphoner et tout. Non, à l'époque, ils n'avaient pas. Et pourtant, Paul, il dit « je combats ». Pour vous. Et en lisant ce passage, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Paul, il se trouve où? Il se trouve en prison. Dernier endroit où on pourrait que quelqu'un pourrait combattre. On se dit, il faut être en liberté pour combattre, prendre l'épée, prendre les armes, faire quelque chose. Mais là, en prison, qu'est-ce qu'on peut faire, quand même? Et pourtant, il dit, je combats. Comment est-ce qu'il combat? C'est bien sûr à travers la prière, cette arme puissante que nous avons. Et puis, il continue, verset 2, c'est extraordinaire. « Afin qu'ils, donc toutes ces personnes qui ne l'ont pas encore vu face à face, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et Paul ici devait faire face à des gens qui recherchaient toujours, on va dire, des choses extraordinaires, les choses surnaturelles. Et lorsqu'on comprend le contexte à la fois de Colosse, si on devait prendre le temps de lire le premier chapitre, Paul va mettre l'accent sur cette science qui vient des hommes, qu'on essayait de mélanger au christianisme. On disait c'était seulement les initiés qui pouvaient accéder à certaines choses. Il fallait suivre toutes sortes de rites pour être vraiment chrétien, chrétien de première classe, et aller plus loin. Et Paul, dans la simplicité de ce qu'il dit ici, montre que non. Tous les mystères sont cachés en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en nous. Et Dieu nous donne tout cela. Tous ces trésors de la sagesse et de la connaissance. Et puis, verset 4, Paul, il a peur que les chrétiens de Colosse, qui avaient si bien commencé, après avoir entendu la parole, ils se sont convertis, ils avaient si bien commencé, mais là, il y avait ce risque qu'ils dévient. Et verset 4, il dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Ce qui veut dire, il y a des discours séduisants qui sont là. On entend certaines choses et, ah oui, ça se peut bien. Ah tiens, ça semble assez logique. Ben, pourquoi pas, j'y avais jamais pensé. Oui, ben, tiens, pourquoi pas. Et on n'examine pas à la lumière de la parole. Et donc Paul, il a vraiment à cœur ses chrétiens. Il le manifeste à travers ses versets. Et puis verset 5, il dit, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » On n'a pas le temps ce matin, mais si, et peut-être je vous donne ça, pas comme devoir, ne le prenez pas comme ça, mais un petit exercice pour votre bien. Prenez cette épître et regardez chaque fois que vous voyez « en Christ ». C'est impressionnant. Paul, il met l'accent « en Christ ». Et il dit « j'entends parler de tout ce qui se passe parmi vous, par la grâce de Dieu, vous êtes fortifiés, vous êtes fermes dans la foi ». Gloire à Dieu. Et ce sont les versets 6 et 7 qui vont nous intéresser pour le message ce matin. Mais avec cette base, on voit l'intérêt que Paul y porte vers cette église. Encore une fois, souvenons-nous, il ne l'avait jamais rencontré. C'était quelqu'un d'autre qui avait fondé l'église. Il avait simplement entendu parler de ce qui se passait à Colosse. Et il s'en est réjoui. Il était dans la joie. Il a dit « Gloire à Dieu !» Et pourtant, ce n'est pas assez. Il faut encore autre chose. Et avant de voir ces versets 6 et 7, nous allons prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton aide et nous demandons à ce que tu nous éclaires, tu nous instruises, que notre cœur ne soit pas indifférent, insensible à ce que tu as pour nous, Seigneur, que tu touches notre cœur, que tu nous montres ce qui doit changer dans notre vie, pour ta gloire. Et Seigneur, que ce soit évident pour tous que c'est toi qui accomplis cette œuvre en nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors Paul, il pose cette base dans les 5 premiers versets. Et puis au verset 6, ces versets que, je suis certain, vous avez déjà lu plus d'une fois. Verset 6, « Ainsi donc, sur la base de leur confession, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont fermes dans leur foi, parce qu'ils ne sont pas ébranlés, parce qu'il y a cette joie, ce bon ordre qui règne parmi eux, du verset 5, « Ainsi donc, pour cette raison, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, et là, marchez en lui. » Marchez en lui. Et la première partie de ce verset, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ », et Paul, parce qu'il est entièrement convaincu du salut de ces personnes, n'a pas besoin d'expliquer comment. Mais « Comme vous avez reçu Jésus-Christ », comment ? Par la foi. Il avait écrit longuement à l'église d'Éphèse pour leur dire « ce n'est pas par les œuvres ». Si c'était par les œuvres, on pourrait se dire « Ah oui, j'ai travaillé plus qu'un tel ». Ah, je mérite le salut plus que telle ou telle personne. Bah, regardez-moi, tout ce que moi je fais pour le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui mérite le salut, bah, c'est bien moi. Si c'était par les œuvres. Et ce sont des religions, nous le savons, qui s'appuient sur les œuvres. Et Paul, il avait combattu cela, cette idée, dans son épître aux Éphésiens, pour bien leur montrer, non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Et ici, Paul dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comment par la foi? Et recevoir veut dire, à un moment donné, on reçoit quelque chose. On reçoit, que souvent on parle de ce cadeau, mais ça peut être n'importe quelle chose. Quelqu'un nous donne, quelqu'un nous offre quelque chose. Et ça veut dire, à un moment donné, bah, on reçoit. Et Paul ici, il part de la base, de ce fondement que ce sont des chrétiens auxquels il écrit. Et justement, c'est le point de départ. Le point fondamental, le plus grand choix de notre vie. Avons-nous commencé avec Jésus-Christ? Avons-nous reçu Jésus-Christ à un moment donné? C'est la plus grande question que nous pouvons nous poser. Et c'est de là que tout commence, tout part. La foi en Jésus-Christ seul, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je crois en Jésus-Christ, mais il y a telle ou telle autre chose. C'est comme si on s'asseyait sur deux chaises. Vous n'avez jamais fait l'expérience s'asseoir entre deux chaises. C'est inconfortable, c'est un peu dangereux, parce que si jamais on bascule d'un côté ou de l'autre, on risque de se faire mal. Très inconfortable, et ça ne peut pas tenir très longtemps. Alors que lorsqu'on est bien sur une chaise, tant que la chaise, elle tient, on peut rester assis aussi longtemps qu'on veut, sauf si on a des problèmes de dos, comme certains. Mais si on s'attache à Jésus-Christ et pourtant on ajoute quelque chose d'autre, Paul dit non. C'est Jésus-Christ seul. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Point à la ligne. Il ne dit pas Jésus-Christ et toute votre ancienne religion, tout ce que vous aviez auparavant. Souvenons-nous encore une fois, c'est à Éphèse que les chrétiens qui se sont convertis ont apporté leurs livres de magie et leurs livres de religion, les ont brûlés sur la place publique. C'est extraordinaire, une valeur presque incalculable. Ils les ont brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, comme Paul va le dire aux Thessaloniciens. Et c'est vraiment le point de départ. Et de se poser cette question, ai-je reçu le Seigneur Jésus-Christ? Moi, je l'ai fait. Gloire à Dieu. Je me souviens, avec mon père, le soir, c'était après une réunion de dimanche soir, encore sur le canapé d'un orange affreux, je m'en rappelle toujours. Et c'était là où il a ouvert sa Bible. Et là, j'ai reçu Jésus-Christ. À un moment donné. Bien sûr, après, il y a toute la connaissance où on approfondit, on grandit, mais j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Et Paul dit, c'est ça le point de départ. Et sans cela, on ne peut pas parler d'autre chose. C'est ça la plus grande chose. Et si nous sommes chrétiens, c'est la question que nous devons poser aux autres, lorsque nous témoignons. Moi, je dis, je ne vous appelle pas à une religion. Je ne vous appelle pas à une église. Je ne vous appelle pas simplement à une meilleure vie. Alors, entendons-nous bien, la vie avec Jésus-Christ est une meilleure vie, n'est-ce pas? Il y a des souffrances, il y a des choses qui, parfois, des épreuves, mais la vie avec Jésus-Christ est une meilleure vie. Mais ce n'est pas pour cela que nous venons à Jésus-Christ. Non, nous venons à Jésus-Christ pour le salut. Et c'est cette question que nous devons poser autour de nous. Avez-vous reçu Jésus-Christ? Non pas simplement est-ce que vous adhérez à un ensemble de croyances, de doctrines, d'enseignements, mais avez-vous reçu Jésus-Christ? Et dans notre évangélisation, ça doit être cette question-là que nous posons. Il faut arriver à cette question. Et Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il sous-entend que ces gens auxquels il écrit l'ont fait. Et puis, il termine le verset 6 en disant « Marchez en lui ». Continuez, continuez. Marchez, vous qui êtes parents, ben cette image, vous l'avez sûrement toujours dans votre esprit, d'avoir vu vos enfants marcher pour la première fois. Quelle joie, n'est-ce pas? Un petit enfant qui jusqu'alors, un peu grimpé sur ras du sol, et qui était là, et puis, il se met debout un peu, et puis il se tient soit à la table ou au canapé, et puis bouge un peu, et puis petit à petit, il fait quelques petits pas, mais il se tient toujours soit à la table ou autre, et après on ne prend pas la main, il s'accroche à la main de papa ou maman, et après petit à petit on lui lâche la main, et peut-être il va tomber, mais là, à un moment donné, il va marcher, un pas avant l'autre. Quelle joie pour les parents d'expérimenter cela, n'est-ce pas, vous qui êtes parents, vous qui avez fait cette expérience. Là, je parle assez souvent de mes nièces, j'ai eu l'occasion de les voir avec mon frère et ma belle-sœur hier soir, et la grande, un peu plus de 2 ans, elle, pas le problème, elle court un peu partout, mais la petite, à peu près 4 mois et demi, elle commence déjà à bouger d'un côté à l'autre, c'est impressionnant, elle grandit à une vitesse, et bientôt elle se mettra à marcher. Et on se dit, mais un petit être comme ça, comment est-ce que ça peut marcher? Et pourtant, Dieu le fait. Et une fois qu'on marche, on continue de marcher. Un pas avant l'autre. Un pas avant l'autre. Et Paul dit ici, marcher en lui, continuer. C'est cette idée de continuité, de constance, de persévérance qui est là. Marcher en lui. Et je lisais cela et je me suis dit, mais... Parce que si nous sommes sauvés par grâce, si Dieu a tant fait pour nous, la chose la plus logique serait de marcher en lui, n'est-ce pas? On se dit, mais il n'y a pas d'autre choix. Dieu nous a sauvés, nous a donné cette vie nouvelle en Jésus-Christ. On ne peut que marcher en lui. Pourquoi est-ce que Paul, il a besoin de dire, marcher en lui? C'est parce que la réalité, c'est que on ne le fait pas toujours, n'est-ce pas? Parfois, on marche selon le monde, n'est-ce pas? On se comporte, et ici, marcher, oui, on peut penser physiquement, mais aussi le comportement, la conduite. On se conduit comme le monde. On a des attitudes, des paroles, des pensées, des gestes même, qui sont comme le monde. Et Paul dit, non. Si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire si nous sommes sauvés par grâce, il faut se comporter comme Jésus-Christ, de marcher en lui. Et nous recevons des attaques tous les jours. Nous voyons autour de nous la plupart des gens qui ne marchent pas selon la parole, qui ne marchent pas en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est tellement important et tellement encourageant d'être avec des chrétiens qui, eux, marchent avec Dieu, et on peut s'encourager, se fortifier, partager des versets, partager peut-être des luttes et comment Dieu nous aide, prier ensemble. Parce que nous subissons tellement d'influences du monde, des inconvertis et peut-être même des chrétiens qui manquent de maturité, qui ne marchent pas selon Dieu, qui ne marche pas en Jésus-Christ. Mais ici, nous avons un ordre de la part de Dieu. Marcher en lui. Et de se poser la question, si je suis sauvé par grâce, et je prie que ce soit le cas de chacun ici, Dieu voit les cœurs. Si je suis sauvé par grâce, est-ce que maintenant je marche? Est-ce que je mets un pas devant l'autre? Il y a quelques semaines, nous avons parlé de l'obéissance. L'obéissance à Dieu, obéissance qui semble comme une idée tellement simple et pourtant quelque chose avec lequel nous avons beaucoup de mal. Marcher en lui, petit à petit, étape par étape, avancer, marcher en lui. Et si nous marchons, ça veut dire que nous allons quelque part. Si nous marchons, c'est pas pour tourner en rond. savez, parfois on utilise cette illustration d'un chien qui se mord la queue. Okay. Il tourne en cercle, et j'ai déjà vu des vidéos, un chien qui chasse sa queue, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'il n'y arrive jamais. Une fois j'avais vu, il avait attrapé sa queue, il avait mordu lui-même. Bon, d'accord. Mais en général, il n'y arrive pas, et c'est totalement inutile. Il fait tous ses efforts, toute cette énergie qu'il pourrait utiliser pour autre chose, mais il tourne en rond. Et on se dit, il est actif, oui, mais... c'est inutile. Il va nulle part. Il reste sur place. Et ici, Paul dit, marchez en lui. Si on marche, ça veut dire on va quelque part. Et Dieu ne veut pas que les chrétiens tournent en rond. N'est-ce pas? Dieu veut qu'on avance. Qu'on grandit dans notre vie spirituelle. Et si on évalue sa propre vie, là, on est à la fin du mois d'août. Et si on regarde tout simplement le début de cette année, est-ce que nous avons grandi? Et là, je ne parle pas physiquement, parce que pour la plupart, c'est fini. On ne grandira plus physiquement. Mais spirituellement, est-ce que j'ai grandi dans ma connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai grandi dans mon discernement de ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que j'ai grandi dans mon témoignage? Est-ce que j'ai grandi dans mon amour pour mes frères et sœurs? Parce que sinon, je suis en train de tourner en rond. Et même si je marche éventuellement en Jésus-Christ, je n'avance pas. Je reste sur place. Je tourne en rond. Et Paul, lorsqu'il dit « marchez en lui », dans son esprit, il veut que les Colossiens, ainsi que tous les chrétiens qui liraient ses paroles à travers les siècles, aillent vers un but, avance dans cette carrière, comme Paul va le décrire, et comme nous voyons dans l'Épître aux Hébreux, cette carrière qui nous est ouverte, cette voie que Dieu a placée devant nous, et de se poser la question, est-ce que je marche? Est-ce que je mets, par l'obéissance, un pas devant l'autre, non pas pour tourner en rond, mais pour avancer dans la voie que Dieu veut. Et puis, Paul nous montre quelles sont les réalités de cela. Quelles seront, lorsque nous marchons pour Dieu, dans sa direction, étant sauvés par grâce, quelle sera la réalité de cela? Comment est-ce qu'on va savoir? Verset 7, il commence en disant, étant enraciné et fondé en lui. Enraciné, là, des racines, vous les voyez, des arbres. Et lorsque les arbres sont à la fois, les racines des arbres sont à la fois profondes, et puis s'étend, le vent peut venir, n'est-ce pas? Les tempêtes peuvent arriver, et peut-être l'arbre va se pencher un peu. Vous avez peut-être déjà vu ça. Un vent terrible qui arrive et des arbres qui se penchent. Mais l'arbre n'est pas tombé. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Nous, on serait partis là. Surtout moi qui n'est pas très grand, avec le vent, je serais emporté assez rapidement. Mais ces arbres, on se dit, mais c'est pas possible. Ils résistent. Même si ça penche un peu, on voit les effets, mais ça résiste. Et c'est parce qu'il y a ces racines qui sont là. Et ce mot enraciné, fondé, ancré, c'est l'idée du mot. Enraciné et fondé. Il y a de ces arbres qui ont leurs racines, très profondes, mais aussi il y a des arbres qui ont des racines qui s'étendent presque aussi loin de l'arbre que l'arbre est haut. On pense à ça et on se dit, mais c'est impressionnant. Parfois, on voit quelques racines là dans la rue. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur la route, on commence à voir des racines des arbres à côté de la route qui commencent à soulever la route. Parfois, sur les trottoirs, on voit ça. Et ça, ce sont des racines qui sont à la surface. Après, il faut se dire, en dessous, il y a encore beaucoup plus de racines. Et Paul dit, étant enraciné et fondé encore une fois en lui. En qui? En Jésus-Christ. Et d'avoir ses racines, d'avoir cette ancre en Jésus-Christ. Et des racines ne se développent pas du jour au lendemain. On voudrait que ce soit le cas, n'est-ce pas? Surtout ceux qui élèvent des plantes et autres. Les agriculteurs, ils voudraient que les plantes poussent du jour au lendemain. Qu'ils se couchent une nuit et puis ils se réveillent le lendemain et tout a poussé très bien. Ce serait formidable, mais bon, la nature ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Et dans notre vie chrétienne, parfois on voudrait faire des progrès du jour au lendemain. Claquer des doigts, un coup de baguette magique, et puis voilà. Mais non. S'il y a des racines, et s'il y a ce fondement, si on est ancré dans la parole de Dieu et en Jésus-Christ lui-même, cela veut dire qu'on y passe du temps. Qu'on fait de cela une priorité, qu'on se nourrit de la parole de Dieu. Qu'on est obéissant à Dieu, qu'on passe du temps avec les chrétiens. Pour se fortifier, pour être encouragé, pour être un encouragement, et aux autres. Et Paul dit ici, enraciné, fondé, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Et je ne pense pas aller trop loin en disant, ça prend toute notre vie. À partir de notre conversion, nous devrions toujours, jusqu'à notre mort, être en train de grandir. Être en train d'être émerveillé devant la parole de Dieu, de plonger nos racines toujours plus profond, d'ancrer notre certitude et notre foi en Jésus-Christ et en sa parole. Et c'est justement, il continue dans ce verset 7, « et affermi par la foi ». Affermi, édifié aussi, certaines traductions vont mettre « affermi ». Vous savez, quelque chose commence à être un peu faillible, faible. Et là, on va affermir. Pour continuer avec cette illustration des plantes, ceux qui plantent des tomates. Pendant des années, mon père, il plantait des tomates. Et qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Il faut mettre la tige, n'est-ce pas? Parce que là, les tomates commencent à pousser et ça devient trop lourd. Et la plante, elle s'affaisse et ça ne grandit plus. Donc on l'attache à ce bout de bois pour que cela grandit bien. Et si tout se passe bien, si on a assez de soleil, si on fait ce qu'il faut, on réussit à avoir de belles tomates. Et là, affermi. On encourage, on fortifie. Et Paul ici dit, et affermi par la foi. Par la foi. Et je suis convaincu qu'il entend cela dans deux sens. Par la foi que nous voyons dans la parole, cette certitude que ce que Dieu a dit est vrai. Peu importe ce que dit le monde, peu importe les doutes que Satan voudrait mettre dans notre esprit, notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Et nous devons être encouragés, fortifiés, affermis, comme Paul dit ici, par cette foi-là. Mais je suis convaincu également que ici nous pouvons parler aussi de la foi des autres. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Et je lis cela à ce que Paul dit dans les quelques premiers versets. Paul loue les Colossiens dans le début du chapitre 2 pour leur amour, pour leur attachement à Dieu, pour tout ce que Dieu fait en eux, pour tout ce que les Colossiens permettent à Dieu de faire à travers eux. Et quand Paul dit « et affermi par la foi », je suis convaincu qu'il a dans son esprit la foi d'autres chrétiens. Et il ne le fait pas simplement pour les Colossiens. À plusieurs autres reprises, il va louer les chrétiens pour leur attachement à Dieu, pour leur obéissance, pour leur amour, pour leur foi. Et comment tout cela a été un encouragement pour lui. Et de savoir que je devrais pouvoir regarder mes frères et sœurs et être encouragé par cela. Paul, à partir de sa prison, en entendant parler de ce qui se passait à Colosse, ainsi que dans d'autres églises, a pu se réjouir, a pu dire, gloire à Dieu, moi aussi je vais continuer. Je travaille pour le Seigneur, mais ça m'encourage à aller même plus loin. Ces frères et sœurs que je n'ai jamais vus, j'ai simplement entendu parler d'eux, leur foi, leur témoignage m'encourage. Et de pouvoir avoir autour de nous des frères et sœurs qui nous encouragent. Dieu n'a jamais voulu que nous affrontions les choses de cette vie tout seul. Voilà une des raisons pour laquelle il a mis en place l'Église. Imaginez-vous s'il fallait traverser cette vie tout seul, même en tant que chrétien. Ce serait terrible. Mais Dieu nous donne l'Église, Dieu nous donne les frères et sœurs pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous affermir par leur foi. Et puis l'inverse, parce que moi je dois être un sujet d'encouragement, d'édification pour les autres. Lorsque les autres me regardent, qu'est-ce que j'inspire chez eux? Est-ce que j'inspire de la louange envers Dieu? Est-ce que j'inspire cet encouragement, cet amour, cette louange envers Dieu pour ce qu'il fait? Ou est-ce plutôt le contraire? Et Paul, il dit, oui, affermi par la foi. Oui, la foi objective qui se trouve dans la parole de Dieu, où Dieu se révèle, cette certitude que nous avons, mais aussi la foi des uns des autres, cet attachement que nous avons pour Dieu qui peut encourager, fortifier, exhorter quelqu'un d'autre. Et là, nous retrouvons des liens avec Hébreux chapitre 12, où après avoir cité dans le chapitre 11 tout ce qu'on appelle les héros de la foi, ces hommes, ces femmes qui ont persévéré sans jamais voir l'accomplissement des promesses de Dieu. L'auteur dit, chapitre 12, « Étant environnés d'une si grande nuée de témoins, nous aussi persévérons dans cette course, dans cette carrière qui nous est ouverte. » Et il faut pouvoir être affermi par la foi des autres, mais aussi affermir les autres par notre foi, et vraiment se remettre en question devant Dieu, suis-je une source d'encouragement? Suis-je une source d'exhortation? Si je suis chrétien, si je marche avec Dieu, je devrais. Ça devrait être le résultat logique de cela. Si je ne le suis pas, je dois me remettre en question devant Dieu. Demander son aide. Il se peut qu'on traverse ces moments difficiles. Comme j'ai dit, Paul, ici, il est en prison. Et là, on peut se dire, mais comment est-ce que quelqu'un en prison puisse encourager? Il est là, dans sa prison, il ne peut rien. Et pourtant, combien de témoignages à la fois de Paul et bien d'autres, des gens, soit dans les prisons, soit dans les hôpitaux, dans des situations extrêmes, on a essayé de venir les encourager. Mais en réalité, on a été plus encouragés que l'encouragement qu'on leur a apporté. Et Paul, il dit, affermi par la foi. Il faut être, oui, enraciné et fondé, mais aussi affermi. Et puis, Paul dit, d'après les instructions qui vous auront été données. Ici, Paul fait référence à la parole de Dieu. Il ne savait pas sur le moment qu'il était en train de compléter la parole de Dieu. Mais Dieu s'est servi de lui dans ses écrits qu'il a fait à ses différentes églises, dans l'enseignement qu'il leur a donné, dans ses instructions. Il apporte la parole de Dieu. Et nos actions, nos attitudes, nos gestes, nos paroles doivent se baser sur la parole. Il y a des traditions. Oui, on fait certaines choses, non pas parce qu'il y a un verset explicite dans la Bible, mais parce que, voilà, on a fait comme ça. Mais dans notre vie, on devrait pouvoir se poser cette question, pourquoi est-ce qu'on fait cela, et au moins trouver des principes bibliques. Et Paul dit, si on veut être enraciné, si on veut être fondé, ancré, si on veut être une source d'encouragement et d'édification, ça vient encore une fois à travers la parole de Dieu. Il dit, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas chercher cela ailleurs, non. Ça se passe à travers la parole de Dieu. Et puis, il termine ce verset avec quelque chose que nous savons. Nous en avons conscience. Et malheureusement, parfois, c'est tellement dur. Alors que ça devrait être tellement facile et simple. Il termine en disant tout simplement « abonder en actions de grâce ». Ceci rappelle ce qu'il va écrire aux Philippiens, cet épître de la joie. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Et ici aux Colossiens, il leur dit « abondez en actions de grâce, de louanges, d'adoration, de remerciements ». C'est l'idée-là, remerciements envers Dieu. Et il ne dit pas un peu. De temps en temps, quand vous y pensez, quand vous êtes en bonne santé, quand tout va bien, quand vous n'avez aucun souci, là, faites élever vers Dieu des actions de grâce. Non. Il dit, abondez en actions de grâce. Pas juste quelques-unes. De temps en temps, ah oui, c'est vrai, il faut que je loue, il faut que je remercie Dieu. Non. Abondez. Que ce soit un sujet qui soit constamment sur nos lèvres, abondez en actions de grâce. Vous savez que aux États-Unis, au mois de novembre, il y a cette journée, on appelle la journée d'action de grâce, le Thanksgiving. C'est très bien. Et surtout les chrétiens, ben, ils louent Dieu, même si je suis convaincu ça se fait de moins en moins. Mais ils mettent à part cette journée pour louer, remercier Dieu pour tous ses bienfaits, gloire à Dieu. J'aimerais croire qu'ils font le reste de l'année, n'est-ce pas? Et une fois, je crois que c'était Bernard, peut-être, qui avait dit, oui, ben, en France, on n'a pas une journée d'action de grâce, ben, on est reconnaissant toute l'année. J'aimerais aussi croire que c'est le cas. Français ne sont pas connus pour être les gens les plus reconnaissants au monde. Mais les chrétiens français devraient se distinguer par ce remerciement, par cette attitude de remerciement et d'action de grâce envers Dieu. Et lorsqu'on regarde ces 6 premiers versets de ce texte, et Paul explique tout ce que les Colossiens ont reçu, et lorsque nous comprenons notre salut, lorsque nous comprenons la bonté de Dieu, lorsque nous comprenons ses bienfaits, tout ce qu'il fait pour nous, on n'a rien à dire. On se dit oui, la louange, les remerciements, cette action de grâce sont les choses les plus logiques dans notre esprit. On ne peut pas du tout mettre d'argument contre cela. Imaginez-vous, en voyant tout ce que Dieu fait pour nous, se dire, je loue pas vraiment Dieu, non, Dieu ne mérite pas que je le remercie pour cela, moi j'ai fait ceci ou cela. Vous voyez combien c'est ridicule, et pourtant, pour en être coupable moi-même, parfois nous tombons dans cet état d'esprit, n'est-ce pas? Sans vraiment le vouloir, sans trop y penser, mais nos actions et nos pensées le manifestent. Et Paul, ici, appelle ces Colossiens, qui avaient bien démarré, et dans cette église dans laquelle les choses se passaient relativement bien. Il n'y avait pas de gros soucis en Colosse. Mais Paul leur dit, et pourtant, continuez d'abonder en actions de grâce. Et l'action de grâce, le remerciement, la louange envers Dieu, va être une marque, une caractéristique d'un chrétien qui se laisse diriger par Dieu, qui marche avec Dieu. La louange et l'action de grâce va être la marque, le caractéristique d'un chrétien stable. Et il faut s'examiner en disant, est-ce que je suis dans les actions de grâce, le remerciement? Est-ce que mon premier réflexe, c'est de remercier Dieu? Lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des orages dehors, je peux vous garantir que mon premier réflexe n'est pas toujours « voici le jour que l'Éternel a fait », qui soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Surtout lorsque j'ai prévu de faire des choses à l'extérieur. N'est-ce pas? On se dit « mais Dieu, j'avais mon plan, j'avais ce que je voulais faire, mais qu'est-ce que tu fais? Envoyer la pluie? Non, mais... » Ou bien si on a un pneu crevé, si on a un accident quelconque, si on passe par des choses, notre première réaction n'est pas toujours « merci Seigneur ». Et pourtant, ça devrait l'être. aussi illogique au monde que cela puisse paraître, pour le chrétien qui comprend tout dont il a bénéficié de la part de Dieu, c'est la chose la plus logique. Et Paul ici termine en disant, dans un sens, par-dessus tout, il faut toutes ces autres choses, mais par-dessus tout, il faut ces actions de grâce, ce remerciement envers Dieu. Et de se poser la question, est-ce que Dieu voit cela en moi? Si Dieu regarde mon cœur, est-ce qu'il voit toutes ces choses dans ces versets? Est-ce que je marche en lui? Est-ce que je suis enraciné et fondé? Est-ce que je suis à la fois affermi? Est-ce que j'ai affermi les autres? Et est-ce que j'abonde en action de grâce? Si Dieu ne les voit pas, il n'y a aucune espérance pour que les autres les voient. Mais si Dieu les voit en nous, il peut nous rendre capables de manifester cela autour de nous. Et nous devons nous remettre en question. Nous devons prier chaque jour, Dieu, aide-moi. Je n'en suis pas capable moi-même. Aide-moi. Parce que nous ne pouvons pas rester indifférents. Soit nous marchons en Jésus-Christ, soit nous marchons sur notre propre volonté, sur notre propre chemin. Et Dieu nous donne, à travers l'apôtre Paul, dans ce passage, ces deux voies. Et il dit, voici ce que je veux pour chacun. Je veux que chacun prenne cette décision. Allons-nous la prendre? Aujourd'hui, nous voyons tous les bienfaits. Nous voyons, c'est ce que Dieu veut. Allons-nous prendre cette décision ou rester avec notre propre choix, avec notre, on va dire, indifférence? À nous de faire ce choix devant Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et justement, nous allons prier pour demander son aide et nous remettre en question devant lui dans la prière. Oui, Seigneur, nous voyons ta parole, nous savons quelle est la vérité, et nous savons que tu nous demandes d'obéir, et nous voulons obéir, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse, rends-nous capables de ce dont nous sommes incapables par nous-mêmes, par cette force, par ton Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité qui habite en nous, rends-nous capables de t'obéir, rends-nous capables de nous souvenir de ces choses, Seigneur, que nous puissions marcher en toi, comme Paul l'explique aux Colossiens, Seigneur, que tu le vois dans notre vie, et que les autres autour de nous aussi puissent se rendre compte, soient encouragés, par cela, et Seigneur, que tu puisses recevoir toute la louange, toute l'adoration qui t'est due pour ce que tu vas faire en nous et à travers nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.